Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il semblerait en amour qu'il y ait deux pentes, comme je le disais le mois dernier. La première serait l'habitude prise des dons qui nous sont faits jusqu'à installer une sorte de lassitude, voire même le sentiment que les choses nous sont dues. La seconde serait le désir de toujours plus approfondir les dons quotidiens de nos vies, comme un chercheur d'or creusant plus avant sa cavité ou comme un botaniste chaque jour émerveillé par son jardin. La messe, source et sommet de la vie chrétienne, comme l'on dit, n'échappe pas à cet enjeu, ce carrefour, lassitude ou approfondissement. Alors, pour nous aider à ne pas tomber dans l'un ou l'autre écueil, ou en tout cas dans la lassitude, cette série d'émissions et cette émission ce matin pour comprendre toujours plus les mystères de la messe. La messe et ses mystères, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Je crois qu'on doit être à la sixième émission avec vous, Monseigneur Le Gall, puisque vous êtes notre invité. Je le rappelle, donc vous êtes archevêque de Toulouse, pour ceux qui par hasard ne le sauraient pas. Et vous êtes par ailleurs moine bénédictin. Bonjour Monseigneur.
C'est bien cela, Emmanuel. Merci de me recevoir encore.
Alors, mercredi dernier, nous avons fêté le mercredi décembre. Nous vous recevons donc au début de ce grand temps liturgique qu'est le carême. Qu'auriez-vous envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, au-delà même de votre diocèse, puisqu'on couvre, je crois, 7 diocèses maintenant dans la région Occitanie.
C'est un chiffre biblique, c'est merveilleux. Et 7 fois 7, 49, 50, 50, c'est le temps pascal, et 40 jours, c'est le carême, comme le mot l'indique. Et oui, nous sommes entrés dans le carême, et cette année, je viens d'écrire une lettre pour mon diocèse, mais ça vaut aussi pour la réflexion des autres, je pense, une lettre dans laquelle j'encourage les gens à réfléchir à ce qu'on appelle la contrainte écologique, ou la transition écologique, ou la conversion écologique. Et suite aux grandes réflexions qui datent de quelques années déjà du pape François sur la date aussi, vous savez, et le carême est un bon moment, le jeûne, c'est-à-dire, comme disent les pères de l'Église, le jeûne, c'est le condiment des aliments. Le condiment. L'assaisonnement des aliments, parce que on est tellement blasé, vous le disiez au commencement de cette émission, on est tellement habitué qu'on n'a plus de goût, on n'a pas de dégoût. Alors, jeûner, se priver de quelque chose, c'est se mettre en état de mieux goûter une nourriture. Quand vous êtes en jeûne, même le pain sec a de la saveur. On retrouve les saveurs premières. Elle est des saveurs fraîches, renouvelées. Or, le jeûne a cet avantage, en nous privant d'habitude, de nos habitudes, de redécouvrir la saveur des choses et des êtres.
Alors, quel est le lien avec Laudato Si et cette incitation écologique?
Il est évident, ça m'étonne que vous ne le voyez pas d'emblée. Et, c'est-à-dire, l'écologie, c'est-à-dire on abuse des biens. On abuse des biens et on a à retrouver un équilibre par rapport au gaspillage. Et le temps du carême est un bon moment, et je me réserve de cette année, je voudrais sensibiliser le diocèse par rapport à cette écologie qui est le fait, une parole sur la maison qui est la nôtre, une parole sur la gestion renouvelée de notre maison, de notre maison familiale, la maison nationale, la maison continentale, etc., la maison tout entière qui est la planète. Et j'avais été frappé lors de l'Assemblée des évêques au mois de novembre à ce sujet. On va avoir bientôt l'autre assemblée qui va un peu continuer sur ce sillon. Et donc, des jeunes nous avaient dit, entre autres, et c'était l'objet de mes vœux pour l'année 2020, moins de biens, plus de liens. Ou encore une autre formule que je reprends volontiers, c'est qu'il ne s'agit pas de vivre moins, mais de vivre mieux. Donc au début du carême, dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, en usant moins des biens, nous goûtions plus leur saveur propre. Et ceci dit, je ne veux pas vous inviter à vous priver de la messe pour mieux la goûter après.
Alors justement, la transition est toute faite. Probablement qu'au désert, en jeûnant et en priant et en pratiquant davantage la charité, comme on dit, même si le mot est peut-être malheureux, bref, en aimant davantage tout à chacun.
Grandir dans la charité, c'est un terme de la prière.
Y compris les plus pauvres, peut-être va-t-on découvrir davantage la saveur de la messe aussi également. Alors, Monseigneur, juste en introduction, on a donc parcouru ce livre, La messe au fil de ses rites, paru aux éditions CLD.
Il est toujours disponible, je crois, sur des distributeurs divers dont la procure, vous le trouveriez encore, n'hésitez pas.
Mais vous me disiez donc, et vous en parliez déjà lors de la précédente émission, qu'il va y avoir bientôt une nouvelle traduction du missel romain. Une question toute simple, en ce début d'émission, la messe et la manière dont elle se déroule est-elle coulée, pardonnez la trivialité de mon expression, mais une fois pour toutes dans le marbre, ou est-ce qu'il y a des choses en fait qui sont appelées à évoluer au fil du temps de l'Église ?
La liturgie est une vie, donc elle ne s'est jamais figée, et l'histoire de la liturgie montre qu'il y a une évolution. Une évolution avec une structure qui, elle, demeure, une structure de fond, parce qu'il s'agit en effet que le mystère de la liturgie, comme le mot liturgie l'implique, c'est ce que Dieu et son peuple font ensemble dans la célébration de leur alliance. Donc voilà ce qui est structurel. Et dans cet échange d'alliance de manière concrète, et ce qui est premier, c'est ce que Dieu nous donne, ce que Dieu fait pour nous. Et de notre côté, c'est ce que nous faisons grâce à lui, et avec lui. Et pour lui, enfin, ça c'est structurel. Et la liturgie n'est pas récente, puisqu'elle date des alliances que Dieu a scellées avec nous, donc depuis nos origines, et jusqu'aux différentes alliances, celle du Sinaï en particulier, et l'alliance nouvelle et éternelle qui est scellée dans le corps et dans le sang du Christ. Donc ça c'est quelque chose d'immuable, mais la manière dont on le réalise s'enrichit avec les siècles. Et dans le livre que vous tenez en main, là, j'évoque à plusieurs reprises la manière dont, pour les différents rites et les différents textes, et on peut situer le siècle où ils sont nés. Le grand siècle des formulaires liturgiques coïncide avec le siècle patristique, c'est-à-dire le fin du 3e, 4e siècle, 5e siècle. Et pour l'essentiel, pour le fondement de la liturgie.
C'est aussi la période des grands conciles dans l'Église.
Les grands conciles, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les quatre grands premiers grands conciles, la période patristique et les formulaires liturgiques. Alors ensuite, dans le fil des temps, d'autres éléments se sont fait jour. Et jusqu'à maintenant, donc le missel que j'ai connu quand je rentrais au monastère à 17 ans, vous l'évoquiez lors d'une autre émission, et en 1963, quand je rentrais au monastère, c'était encore l'ancien missel. Qui était issu du Concile de Trente, en particulier la messe, le rite selon Saint Pie X, comme on le sait. Jamais l'histoire de la liturgie s'est figée. Donc c'est pour ça que la messe traditionnaliste, ou traditionnelle, la tradition continue. Et dans le nouveau missel que nous allons avoir enfin entre les mains dans le courant de cette année 2020, nous espérons à partir de l'été, au début de septembre, et qui va nous permettre une catéchèse renouvelée. C'est pour ça que nous avons anticipé avec ces émissions sur ce nouveau missel. J'en suis heureux, mais nous y reviendrons peut-être sur des émissions complémentaires si vous le voulez bien. Je l'aimerais, en ce qui me concerne. Donc ce missel n'est pas, c'est le dernier qui sera promulgué, mais c'est pas, il y en aura d'autres dans les temps qui viendront, il y en aura d'autres, mais dans la même ligne, dans la même ligne, avec des perfectionnements,
la tradition vivante,
c'est ça, voilà.
Alors Monseigneur Le Gall, donc pour rappel, on parcourt, donc c'est ce qu'on a fait lors de la précédente émission, donc les rites de communion. Ça peut paraître jargonneux à ceux qui nous rejoindraient, qui n'auraient pas suivi les autres émissions. Donc il y a deux grands temps, pour rappel, dans toute messe, donc la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Et à la fin de la liturgie eucharistique, il y a donc les rites de communion. On a parlé du Notre Père, du rite de la paix, de la fraction du pain, de l'immixtion, de l'Agnus Dei. Et puis donc on en arrive donc au moment où il est dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est une belle manière de recommencer au début donc, de cette émission. Comme à chaque fois, je vous laisse en fait nous décrire ce que l'on vit et puis nous rappeler, on l'avait dit lors de la précédente émission, au moment de la News Dei, donc l'agneau de Dieu, vous disiez, c'est un moment dans la messe particulièrement tendre.
Émouvant et profond.
Alors qu'est-ce que ce voici l'agneau de Dieu à ce moment-là? Le prêtre donc porte l'Eucharistie, la montre à l'assemblée et l'assemblée répond.
C'est un des peu, vous le dites bien, c'est le prêtre montre l'hostie, et même quand c'est possible, on peut faire seulement montrer l'hostie ou montrer l'hostie avec le calice, prendre le calice et l'hostie au-dessus, et ça montre les sacrements sur les deux espèces dont nous allons avoir à parler à un moment ou l'autre, là aussi. Mais dans la continuité de chant de l'Agnus Dei, ceci prend du sens, vous comprenez bien. Voici l'agneau de Dieu. Mais par contre, dans le nouveau missel, la formule va être améliorée maintenant, puisque on continuera, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Nous parlions la dernière fois des péchés. Et dans le monde où nous sommes, on a peut-être tendance à prendre conscience du péché, encore que l'époque où nous sommes, avec la préoccupation de l'écologie précisément, montre que nous sommes dans une période où le monde ne va pas bien, au point de vue économique, politique, planétaire, et les gens sont plus sensibles au besoin d'avoir un sauveur, quelqu'un qui nous sauve et qui nous libère, qui enlève le péché du monde. Et donc la conscience du péché est quelque chose qui peut avoir une place plus grande de manière à être délivré. Donc voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, et la formule qui sera nouvelle dans le nouveau missel, c'est heureux, donc c'est une invitation au bonheur, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. La formule est heureux les invités au repas du Seigneur, on disait auparavant, là ça a changé, et ensuite voici l'agneau de Dieu. Ici voici l'agneau de Dieu, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. L'agneau de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui enlève les péchés du monde, qui s'est sacrifié, mais grâce à son sacrifice, qui nous permet de participer aux noces, à ces noces de l'agneau, telles que nous les présentent les pages de l'Apocalypse. C'est particulièrement intéressant de trouver, parce que c'est plus fidèle au texte latin du missel romain.
D'ailleurs, vous disiez dans votre livre que justement, cette formule pouvait être améliorée.
Et vous voyez, donc on y arrive.
Alors, Monseigneur, je vous propose à ce moment de l'émission, surtout de cette grande série qu'on a fait, et toute cette partie donc sur la liturgie eucharistique et sur la communion, de s'arrêter un petit peu sur les dispositions dans lesquelles il faut se présenter à la communion. Alors, ça peut en choquer peut-être certains, mais vous laissez entendre un peu plus tôt dans votre livre qu'il y avait... Il y a eu pendant longtemps dans l'Église, en tout cas en France, si on remonte jusqu'au siècle dernier, un excès qui était un excès janséniste, comme on dit dans le jargon, peut-être trop souhaiter pour dire les choses de manière très caricaturale, et qu'aujourd'hui on serait tombé dans un autre extrait. Alors que dit le pasteur que vous êtes? Dans quelle disposition de cœur et d'esprit faut-il se présenter à la liturgie eucharistique, sachant que vous vous rappelez aussi... L'Eucharistie n'est pas une récompense réservée aux parfaits, mais un aliment et un remède à ceux qui, je cite, et c'est l'évangile selon saint Matthieu, enfin que vous citez, ont faim et soif de justice.
C'est un fait que la période avant le Concile Vatican II, au début du siècle et le dernier, et au XIXe siècle aussi, l'influence du jansénisme avait fait que les communions étaient quelquefois rares. On communiait une fois ou deux par an la communion pascale, ou bien, et les gens ne communiaient pas de manière habituelle ou pas quotidienne, ou rarement, ou sauf dans les milieux religieux proprement dit, dans la communauté religieuse. Et de fait, les conditions pour communier étaient grandes. On disait à ce moment-là qu'il ne pouvait pas communier si on ne s'était pas confessé juste avant, ce qui se pratique encore parfois dans certains lieux ou dans des églises orientales, parfois. Mais où là, l'Eucharistie est moins fréquente. Et donc le sens du péché est un sens qu'il faut avoir. Et Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne. Donc on est jamais à la hauteur du don que Dieu nous fait de lui-même. Et donc, nous avons toujours à nous ajuster et à être justifiés par lui et par nous. Donc,
question triviale, Monseigneur, juste, peut-on se présenter à la communion si on ne se confesse jamais ?
Non. Non, parce que c'est pas au départ. Et le pape Saint Pie X, qui avait voulu privilégier la communion quotidienne et la communion des enfants en particulier, et c'était au début du XXe siècle, hein, le pape Pie X avait rappelé quand même les conditions, c'est-à-dire que on ne peut communier que si on a la conscience en paix par rapport à des fautes graves.
Si on a l'impression de ne jamais commettre de fautes graves, c'est...
Eh bien, c'est bénissons le Seigneur. Est-ce que c'est une impression? Mais la conscience a besoin de s'éclairer. Et la conscience peut être un petit peu obscurcie à force de ne pas se rendre compte de ce qu'on fait, ou également de la manière dont on minimise actuellement dans la façon de vivre, notamment dans tout ce qui concerne toutes les formes d'égoïsme, en quoi consiste l'essentiel du péché, de l'égoïsme ou de l'orgueil. Ça se résume à ça, et donc dans la manière dont on rabaisse les autres, etc., dont on est injuste par rapport aux autres, dans la mesure où aussi on fréquente des sites pornographiques, toutes ces questions de la sexualité qui est banalisée et qui est vraiment défigurée aussi. Ça, on n'a pas conscience de ça. Tout récemment encore, on avait la journée avant le carême, avant l'appel décisif qui a eu lieu le premier dimanche du carême tout récemment. Donc j'ai reçu une centaine encore d'adultes entre 25 et 40 ans, pour l'essentiel, qui demandent d'être baptisés. Mais la réflexion avait été faite par un membre de catéchuménat l'autre jour à ce sujet, disant que c'est la grâce de Dieu travaille des cœurs manifestement, l'expérience de Dieu est une chose qui est réelle dans ces gens qui demandent le baptême ou la confirmation. Mais par contre, ce qui n'affleure pas dans les échanges de qualité que nous avons à ce sujet, le sens du péché semble bien érodé. Et donc en particulier, on vit avec un conjoint qui n'est pas son mari ou sa femme, et donc ça ne semble pas préoccuper. On n'est pas conforme à ce que l'Église demande par rapport à la vie conjugale, véritablement. Donc il y a un sens du péché qui s'est perdu, de certaine manière. Et le fait qu'on arrive dans un monde aussi où les choses sont beaucoup plus complexes, mais dont on voit des résultats difficiles, notamment pour la bioéthique, hein, la parentalité, la maternité, la paternité, vous en savez quelque chose, et bien tout ça, c'est vraiment dangereux. Et donc on a besoin d'être purifié, on a besoin de reconnaître son péché, d'éclairer sa conscience et demander au Seigneur d'être libéré du péché. Et ça, il y a tout un travail à faire, et le temps du carême est un temps particulièrement privilégié pour ça.
Et vous auriez pu ajouter donc aussi les péchés qui sont liés, on va dire, au comportement avec la création, puisque
écologique.
Par le pape François, voilà, l'égoïsme et la miséricorde de Dieu peuvent aller jusque dans ces réalités. On fait une première pause musicale, Monseigneur Le Gall, et puis on vous retrouve. Je rappelle le titre de ce livre que l'on parcourt au long de cette année, La messe au fil de ses rites, paru aux éditions CLD. Thank you.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
La messe et ses mystères, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, cette grande série annuelle avec Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse, où nous parcourons donc la messe pour essayer d'en découvrir tous les trésors. Voilà, longue aventure au long de cette année avec vous, chers auditeurs, avec en premier de cordée donc Monseigneur Le Gall. Alors, la distribution de la communion, donc on est toujours donc à la fin de la liturgie eucharistique, toujours dans les rites de communion. On s'approche de ce moment donc de la communion. Vous avez quelques préalables avant de vous effacer discrètement, puisque vous ne parlez pas de la communion même, hein, évidemment, ça c'est un moment qui appartient à chacun. Vous parlez de la distribution de la communion. Alors ça peut paraître très technique, voire jésuite à certains, mais en même temps, beaucoup y sont sensibles. Monseigneur Le Gall, tout simplement, qui peut distribuer la communion? Ou non, avant cela, je vous poserai une autre question, parce que parfois, on voit ça dans certaines célébrations eucharistiques. Est-ce qu'on peut se servir soi-même? Parfois, on peut participer à des messes où sur l'autel est mis le corps du Christ, et puis on va soi-même se servir. Et quel sens y a-t-il à ce que ce corps nous soit donné par quelqu'un?
Non, on ne peut pas se servir soi-même comme dans un panier. On prend le pain qu'on veut, on prend une bouchée, etc. Jésus a donné son corps et s'est livré par amour de son Père et de nous. Il s'est livré et il se donne à nous, il se livre à nous. Et le Seigneur demande que le prenez et mangez. Prenez et buvez. Donc il nous invite à manger et à boire, mais ce corps et ce sang qu'il a donné pour nous, et dans lequel il se donne, nous est donné, et nous le recevons. Et les mains ouvertes devant toi, Seigneur, comme il y a un chant, et donc cette communion nous est donnée. Alors, dans certains cas, et évidemment pas pratique, je pense à des communions, dans les religieuses en particulier, qui communient sur les deux espèces, bon, ben, il va revenir, et éventuellement où il n'y a pas assez de prêtres ou de diacres pour distribuer le sang du Christ dans un calice, et à ce moment-là peuvent être posés sur l'autel les calices. Mais le corps du Christ, d'abord, est reçu par un ministre. Alors, normalement, c'est celui qui distribue la communion, c'est le prêtre.
Qui distribue la communion, c'est le prêtre. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces contraintes? Comment peut-on éclairer ces règles canoniques?
Il faut que ce soit le prêtre, parce que c'est lui qui a consacré, c'est lui qui donne. Et normalement, c'est toujours le prêtre. Sauf si un prêtre n'était pas vraiment très, très fatigué, et donc assis, etc., ne pouvant pas à ce moment-là, il peut en effet déléguer un fidèle, un autre prêtre, si c'est pas le président, s'il y en a d'autres, un diacre, ou un acolyte qui est dûment mandaté pour cela, mais ou n'importe quel fidèle formé pour cette communion, c'est possible. Enfin, le premier à donner la communion, et c'est le seul quand il y a que peu de gens, c'est le prêtre.
Alors pourquoi cette entre guillemets restriction? C'est parce que il tient lieu du Christ pasteur.
C'est pas une restriction, c'est pas en effet une exemption, etc. C'est pas en effet une minimisation du rôle des laïcs. Donc c'est le prêtre qui a célébré, distribue la communion, donne la communion, et c'est tout simple.
Mais parce qu'il tient lieu du Christ pasteur, c'est ça?
C'est parce que c'est le Christ qui s'est donné, et le prêtre comme pasteur, en effet, continue à donner le pain de vie à ceux qui viennent pour se nourrir. Mais c'est tout simple que ça. Il y a pas de le prêtre. C'est au prêtre de donner la communion, et il suffit quand il y a quelques personnes. Mais s'il y a d'autres, s'il y a une nombreuse, il ne peut pas le faire tout seul. À ce moment-là, il demande à être aidé par des concélébrants, par les diacres, ou par des fidèles, mais à condition qu'ils soient formés pour cela. Et qu'ils soient aussi dans le témoignage de la communauté, dans la cohérence avec la vie chrétienne.
Alors, autre question, pardon, elle va peut-être vous paraître on va dire, polémique inutilement, mais les femmes peuvent distribuer la communion comme les laïcs hommes.
Bien sûr.
Voilà, je ne veux choquer personne, mais c'est parfois des questions qu'on entend qui peuvent paraître surprenantes.
À condition qu'elle soit préparée pour cela et qu'elle soit mandatée pour cela. Ce n'est pas la première personne qui se présente en disant tu veux donner la communion. Non, il faut des gens qui soient désignés pour ça et préparés pour cela.
Alors vous dites aussi, une des formes les plus... Enfin là, vous citez le code de droit canon, si je ne me trompe pas. Une des formes les plus notables de la participation des fidèles laïcs à l'action liturgique de l'Église est sans nul doute la faculté qui leur est concédée de pouvoir distribuer la Sainte Communion comme ministre extraordinaire de l'Eucharistie. C'est dire aussi la confiance. Et je pense que les personnes qui ont déjà distribué la communion savent à quel point ça peut être marquant pour soi. Si on avance, il y a donc la question de la communion selon les deux espèces. Alors, selon les deux espèces.
Sous les deux espèces.
Sous les deux espèces, selon, excusez-moi. Ce qui veut dire donc de communier donc au corps et au sang du Christ, puisque les deux donc sont consacrés sur l'autel. Et alors donc à vous lire, en fait, quelque part, il serait bon que cette communion sous les deux espèces soit plus fréquente. Ou ai-je peut-être lu trop rapidement? Pourquoi?
Si le Christ s'est offert en sacrifice et le symbole qu'il a donné, le signe plus exactement qu'il a donné de cela, c'est son corps et son sang séparés, et c'est, nous l'évoquions déjà une autre fois, le fait d'avoir le corps d'un côté et le sang de l'autre, quand je vois, heureusement, je ne vois pas le sang d'un côté et le corps de l'autre, et votre sang irrigue tout votre corps, comme le mien actuellement, et si le corps était séparé, comme dans un accident, ben c'est le signe de la mort, de la mort. Donc il est essentiel, à tel point que si, je l'avais déjà dit ça je crois, que si un prêtre mourait après avoir consacré le corps du Christ et il n'a pas eu le temps de consacrer le sang, il n'y a pas de sacrifice. Il y a la présence eucharistique du Christ vraiment dans le pain, mais il faut qu'un autre prêtre continue ou bien la messe n'a pas lieu. La messe n'a pas lieu. Mais bien qu'il y ait la présence réelle du Christ dans toute l'espèce du pain.
Pourtant, il y a rarement des adorations eucharistiques, du calice avec le sang.
C'est une question
pratique,
de conservation, des questions de conservation et pratique aussi. Mais c'est pour ça que l'adoration eucharistique, c'est toujours en référence au sacrifice eucharistique dont est issu le corps ou le sang du Christ. Mais on a besoin des deux espèces. Et j'allais dire, tout à l'heure, on a parlé du rythme de ligmixion où on réunit le corps et le sang en symbole de la résurrection. Mais il faut pas, on dit aussi par rapport au, faut pas séparer ce que Dieu a uni à propos des époux, mais il faut pas réunir ce que Dieu a séparé pour la communion, parce que c'est la communion doit se faire autant que le prêtre doit communier sous les deux espèces. Les prêtres qui sont là doivent communier sous les deux espèces séparément. Et non pas, il y a une autre manière de faire où on trempe le pain dans le sang, c'est quelque chose pratique et plus rapide même entre prêtres, quand des prêtres ou des évêques, mais la forme la plus normale et la plus plénière de communion, c'est de recevoir le corps du Christ, de communier dans la main, dans la bouche, c'est libre, et ensuite de communier en buvant au calice. C'est voilà la forme idéale, normale. Et quand on est dans des petites communautés, des petites assemblées, c'est facile de prévoir. Moi, dans ma chapelle à l'archevêché, tous les jours à la messe avec la sœur ou une autre personne, elle reçoit le corps du Christ et ensuite le vicaire général ou moi-même présente le sang du Christ. À la suite.
Il est très souhaitable que les fidèles reçoivent le corps du Christ avec des hosties consacrées à cette messe. Ah non,
oui,
je me perds.
Plus,
Bref, peu importe. En tout cas, la communion sous les deux espèces, vous dites que ça fait écho aux paroles du Christ. Prenez et mangez-en tous et prenez et buvez-en tous. Et il n'avait pas dit quelques-uns.
Et ne trempez pas. On n'est pas trempé. Et normalement, soit on communie sous les deux espèces avec le calice, ou si ce n'est pas possible, on communie sous une seule espèce. Gicler le corps, c'est pas digne, et l'Église ne promeut pas cela.
Alors, Mgr Le Gall, c'est pareil, vous arrêtez donc votre livre sur la communion dans la main, ou la communion dans la main ou la communion dans la bouche. Alors là aussi, peut-être que certains vont hausser les épaules en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces considérations ?» Pour autant, ça fait parfois justement débat dans l'Église. Hein, j'ai souvenir récemment d'un religieux qui me disait qu'il avait lu un, on va dire une préface d'un cardinal imminent qui laissait entendre que toutes les difficultés de l'Église aujourd'hui reposeraient dans la seule communion dans la main et non pas dans la bouche. Vous rappelez que de la communion dans la main a été autorisée par la Congrégation pour le culte divin, c'était le 6 janvier 1969, qu'après l'épiscopat français s'est positionné. Alors quid, communion dans la main ou dans la bouche ?
Et ça dépend en effet des conférences épiscopales ou des pays. Et il y a des pays où on communie de manière habituelle dans la bouche, c'est comme c'est le cas de, je crois, de l'Italie, et dans un certain nombre d'autres pays en effet aussi. Mais la communion initiale, donc dans l'Antiquité, était toujours dans la main, on recevait le corps du Christ.
On imagine qu'à la scène, c'est comme ça que ça s'est passé aussi.
Bien évidemment. On a pris une bouchée, un morceau de pain, et qu'on a mis dans sa bouche, et non pas sous la langue, mais bien évidemment. Et en plus, il y a des textes remarquables des Pères de l'Église qui disent « Fais de ta main gauche le trône pour la main droite, pour recevoir le droit de gloire. » Tout dépend comment on le fait. On dit que les mains ne sont pas propres, au risque de servir à beaucoup d'autres choses, mais la langue aussi n'est pas toute pure, loin de là. La langue est aussi sujette à l'impureté que sont les mains. Donc il s'agit de comment fait-on pour recevoir avec humilité et un immense respect. Ça se fait quelquefois mieux avec la main, dans la main, dans ces sentiments-là, qu'avec la bouche.
Vous laissez entendre par contre que parfois les pasteurs sont obligés de faire face à des situations un peu limites, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui tendent les deux doigts pour prendre l'Eucharistie.
Et oui, c'est comme une espèce de bec,
j'ai souvenir
de perroquet.
D'un prêtre à Notre-Dame de Paris aussi qui parfois courait derrière les touristes parce que il venait communier et que l'Eucharistie se retrouvait collé dans l'album photo de certains touristes.
Ça m'est arrivé aussi, j'ai toujours très attentif parce qu'il y en a qui partent, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'hostie après? Il peut y avoir des messes noires ou autre chose, mais enfin, je rappelle les gens, mangez, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il faut être très attentif à ça. Et donc, prenons le corps du Christ, mais consommons-le recevons-le dans l'intériorité, dans un immense respect. Soit la bouche ou dans les mains, mais dans les mains, c'est extrêmement noble.
Voilà, je rappelle le passage que vous avez cité, hein, de la main gauche, un trône pour la main droite. Fais de ta main gauche un trône pour la main droite, puisqu'elle doit recevoir le roi.
Puisque c'est la
foi de l'Église, que l'Eucharistie, c'est donc le corps du Christ ressuscité. Alors avant qu'on fasse une deuxième pause, quid de la fréquence de la communion, Monseigneur, vous me dites qu'en fait, une communion annuelle,
minimum.
Je vais une fois par an à la messe, à Noël ou à Pâques. Donc c'est le minimum. Et après, en fait, c'est quoi ? Donc c'est une incitation de l'Église à creuser ce mystère d'amour, tout simplement.
Le pape Saint Pie X, au début du siècle dernier, avait invité à la communion fréquente, ce qui n'était pas le cas sous l'influence du jansénisme précédent, comme on l'a déjà dit. Donc la communion quotidienne est prônée comme la messe quotidienne pour les prêtres, même s'il n'y a pas d'assemblée. Les prêtres ne sont pas obligés, mais sont fortement invités à célébrer la messe tous les jours, même s'ils n'ont pas d'assemblée en semaine, etc.
Alors pourquoi pour les fidèles, la communion quotidienne, on a une forte incitation à la communion quotidienne ?
C'est parce que de même que quand on ne peut pas communier et aller à la messe, on a toujours la possibilité sur les petits livrets pris en église, Magnificat ou autre chose, paroles, etc. et de se nourrir de la parole du Dieu du jour, du menu du jour, et dans ça c'est la liturgie de la parole, ça est toujours disponible sur nos smartphones. En particulier, c'est extrêmement commode où qu'on soit, dans le métro, dans le bus, dans s'asseyant deux minutes sous un banc, etc. Et la liturgie eucharistique aussi, on a besoin de se nourrir au corps du Christ, de ce pain super substantiel et quotidien, de nous aujourd'hui, le pain de ce jour, et de chaque jour. Donc on en a vraiment besoin. Alors la question se pose, peut-on communier deux fois par jour ?
C'est vraiment une question, ça ou
c'était une vraie question, parce que...
C'est pas les grands dévots qui finissent par se faire des nœuds
Non, mais c'est un... Et par exemple, une messe récente, où j'étais... Les fidèles avaient déjà eu la messe ce matin, un dimanche, et on avait la messe, la messe pour les catéchumènes, avec les catéchumènes, avant l'appel décisif le mois dernier. Eh bien, j'ai communié ce matin. Donc, vous pouvez communier pour deux raisons. Parce que d'abord, on peut communier une deuxième fois dans une liturgie eucharistique importante. Et quand c'est l'évêque, on peut toujours communier, recommunier. Quand c'est la messe avec l'évêque, en signe de cette unité du peuple de Dieu et du mystère eucharistique. Non, mais la pensée, on ne peut pas non plus banaliser l'Eucharistie en communion trop souvent, parce que ça devient banal. Et on retrouverait l'habitude dont nous parlions il y a quelque temps au début de nos émissions. Et donc honorer l'Eucharistie et donc vivre pleinement ce qu'on a à vivre et pas le multiplier pour le plaisir.
On fait une deuxième pause et on vous retrouve, Monseigneur Légal, pour finir sur les rites des communions. On va parler entre autres de la communion eucharistique pour les malades. On voit s'avancer pendant la messe des personnes qui reçoivent la communion et qui viennent la porter à ceux qui sont malades. La liturgie eucharistique, elle se vit aussi au-delà de la simple église où elle est célébrée. On vous retrouve dans quelques instants. Cet ouvrage que l'on parcourt, La messe au fil de ses rites, paru aux éditions CLD.
Emmanuel Pella.
La messe et ses mystères, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, en ce premier lundi de carême. Nous sommes avec Monseigneur Robert Legal, archevêque du diocèse de Toulouse et donc métropolitain. Donc d'une certaine manière, vous avez autorité pour accompagner tous les fidèles en ce début de carême. On vous retrouve donc pour cette grande série annuelle où on parcourt un ouvrage que vous avez écrit sur la messe pour essayer d'en comprendre, instant après instant,
toute la profondeur.
Toute la profondeur. Je parlais donc de la communion aux malades. Alors vous rappelez donc... vous rappelez cette réalité. Certains s'avancent avec ce qu'on appelle une custode au cou.
Custode, ça veut dire que custo, c'est le gardien, c'est de custodire en latin, c'est garder, donc c'est une petite boîte circulaire habituellement qui se ferme, dans laquelle on peut recevoir une hostie ou plusieurs hosties pour aller les distribuer aux malades.
Alors pourquoi vous faites un arrêt à ce moment-là? Parce que c'est vrai que parfois ça se fait discrètement pendant la liturgie eucharistique. D'autres fois, au contraire, c'est assez solennisé. C'est tout à la fin. Comme ça, tout le monde a conscience qu'il y a quelqu'un qui va en délégation quelque part pour...
C'est ça. Il y a même une formule qu'on peut dire à ce moment-là aux fidèles qui reçoivent cette custode dans laquelle il a placé une hostie. Et donc, ça montre en effet... Mais c'est très traditionnel. C'est-à-dire, très, très dans l'Antiquité chrétienne, la réserve eucharistique était faite pour les malades. On ne pratiquait pas l'adoration eucharistique pendant de nombreux siècles, les premiers siècles de l'Église. Il n'y avait pas d'adoration eucharistique. Mais on gardait l'Eucharistie, notamment pour les malades. Et pour assurer la continuité locale, comme nous disait à l'oreille de l'émission, entre les différentes assemblées, à partir de la liturgie épiscopale. C'était vraiment ce sens-là. Et donc c'est très traditionnel de donner... Mais ce qui est mieux, un fidèle peut demander au prêtre de recevoir la communion tirée du tabernacle, précisément, qu'il y avait pour ça dans la journée. Mais le mieux, c'est en effet qu'au moment de l'Eucharistie, et souvent les gens viennent seulement à leur rang dans la procession eucharistique, la procession de communion, ils viennent et puis ils communient, puis ils ouvrent une petite boîte. Moi je leur demande à ce moment-là, c'est combien vous en voulez, c'est pour une personne ou plusieurs personnes, on donne suivant la demande, et c'est au cours de cette procession eucharistique. Alors ils gardent sur eux.
Monseigneur, pour tous ceux qui rendent ce grand et magnifique service d'aller porter la communion,
vraiment,
je pense qu'il y en a un certain nombre qui écoutent, c'est souvent un service
hôpitaux,
très discret.
Famille, etc.
Mais Dieu sait si c'est une grande œuvre de miséricorde. Hein. Comment on s'y prend? Parce qu'après, on se retrouve tout seul avec son conjoint qui est malade à la maison ou tout seul à l'hôpital. Alors, comment est-ce qu'on donne la communion?
D'abord, il faut solliciter du prêtre, avertir le prêtre. Des fois, au début de la messe, avant la sacristie, si on a le temps, on peut aller dire, voilà, j'ai une custode, est-ce que vous pouvez me remettre la communion, en explicitant pourquoi, pour un malade, pour ma famille, etc. Et le prêtre donne la communion en ce moment-là, et puis vous partez avec la custode sur votre cœur, ou de manière digne, donc pas n'importe comment. Parce qu'il m'a raconté des histoires une fois ou l'autre, comment réelles. Et quelqu'un avait trouvé l'Eucharistie dans la boîte aux lettres, dans une enveloppe. Ou alors, un fidèle ne peut pas garder l'Eucharistie chez lui pour l'adoration personnelle. C'est pas permis. Parce que ça banalise l'Eucharistie, on n'a pas le droit de faire cela. Quand on prend l'Eucharistie, c'est pour la donner le jour même, très vite après la messe à laquelle
on a participé. Alors quand on le fait dignement, on va voir sa grand-mère et puis on lui dit juste, on sort l'Eucharistie, on lui dit le corps du Christ et on lui donne.
Il y a un petit rituel qu'on peut avoir à ce moment-là et qui est précisé, mais il faut le demander. Il y a l'Eucharistie en dehors de la messe, c'est prévu dans des rituels, mais c'est simple. On peut tout simplement relire peut-être une lecture de la messe du jour avec la personne que l'on vient visiter, à qui on vient donner la communion, et reprendre voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et Seigneur, je ne suis pas digne de proposer à je confesse à Dieu ce qui est bien aussi. Et puis une fois que la personne a communié, on peut avoir un moment de silence d'une part, et puis ensuite chanter peut-être un cantique ou un Je vous salue Marie. Et un petit rituel dans le même aussi, c'est bien que chez la personne chez qui on va, on puisse évidemment avoir une petite guéridon dans laquelle on met un linge blanc, on pose la custode, etc., avec une croix ou une fleur, un petit peu de fleurs. Donc il faut un petit peu marquer des choses, simples, mais de manière noble.
Alors si on avance justement, suis donc le chant de communion. Alors là, vous faites un développement, on sent le moine bénédictin, vous dites le psaume par excellence.
Le 33e.
Celui de la procession de communion.
Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. C'est pour ça qu'il y a ce verset dans le psaume 33, c'est pour ça que c'est le chant, c'est le psaume par excellence. Mais les antiennes de la communion, par contre, dans le graduel romain, dans le chant grégorien, c'est pratiquement toujours tiré de l'Évangile.
Alors justement, il y a peut-être un peu de malice de ma part, mais
ça m'étonnerait pas.
J'ai lu... dites-moi, entre les lignes, j'ai cru comprendre que il peut y avoir des chants de communion qui ne sont pas très très ajustés. Alors je ne sais pas si parfois ça vous est arrivé d'être agacé par ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur le chant de communion? Qu'est-ce qu'il est opportun de chanter à ce moment-là? Et justement, de quoi faut-il que les chants soient inspirés?
il existe, et c'était heureux, donc un certain nombre de chants pour la communion qui sont des très beaux chants, il y en a beaucoup qui sont magnifiques, toi le petit, le serviteur, etc. Donc on en connaît tous, il y en a qui sont très bons. Mais pour moi, le problème surtout dans le pastoral, parce que je célèbre dans ce diocèse, et pas seulement, je ne suis plus au monastère maintenant, c'est de quelquefois il y a trop de chants. Il y a un chant. Il faut un chant de communion pendant la procession de communion. Ça, c'est tout à fait à sa place. Et parfois, après, il y a un chant qui suit pratiquement tout de suite et qui est un chant davantage de méditation une fois la communion est reçue. Mais ça, on n'en sort pas. Donc, tout ça, c'est légitime, mais il faut aussi garder un temps de silence, un temps d'intériorité.
Voilà, parlez-nous du silence.
Et le silence fait partie intégrante de la liturgie, et ce n'est pas assez vécu dans nos liturgies. Et le temps de silence, vous l'avez normalement, d'abord, si c'est possible, avant la messe, au tout début de la messe, quand l'assemblée est là, parce que parfois, ça bavarde beaucoup, ça crie beaucoup, et donc on n'est pas dans l'intériorité, dans l'attente. De la célébration. Et pour ça, l'orgue, il est bon qu'avant qu'on se mette à chanter et que pour que les gens ne parlent pas comme ça dans ces gens des nouvelles dans l'église, il est bon qu'il y ait une musique, l'orgue ou bien dans l'orchestre, c'est-à-dire qu'il y ait de la musique, une musique qui nous mette un petit peu dans l'ambiance de la prière. Alors de même, après le chant de l'évangile, la lecture de l'évangile, et la petite homélie en semaine, ou l'homélie plus substantielle du dimanche, il importe d'avoir un temps de silence.
Alors, c'est bête, mais combien de temps, Monseigneur ? Parce que c'est vrai que soi-même, quand tout d'un coup on a envie d'un peu intérioriser, on a l'impression qu'on a à peine fermé les yeux, que hop, il faut se relever.
C'est pas trois quarts d'heure, bien évidemment, vous comprenez bien, mais c'est pas.
Quelle serait votre prescription ? Quelle est la posologie de l'Église au silence à ce moment-là ?
Je crois que pour qu'un silence soit vraiment vécu, il faut au minimum une ou deux minutes. Vous savez, une minute de silence, c'est quelquefois long. Minute de silence, il y a des gags là-dessus, c'est sympathique, mais donc il faut à mon avis une ou deux minutes. Donc c'est vrai après l'homélie et après la communion. Et le silence, c'est une partie intégrante de la liturgie. Alors, ce silence doit être nourri par la méditation de la parole de Dieu après l'homélie, et puis de la présence du Christ qu'on a reçu dans son corps et son sang après la communion eucharistique. Donc, un moment de silence, d'intériorité. Et les gens, quand on en prend l'habitude, les gens le font bien. Les enfants eux-mêmes le font bien.
Est-ce que c'est pas aussi une manière à ce moment-là, dans la liturgie, d'éduquer à ce qu'est la prière personnelle, parce que la prière personnelle, c'est difficile pour beaucoup.
Oui,
ce moment-là peut être un moment en fait où on apprend à prier. Tout simplement.
Tout à l'heure vous me disiez, est-ce qu'il faut choisir entre la communion, la participation à la messe ou bien faire oraison? C'est faut pas choisir. Je choisis les deux.
Choisir, il vaut mieux faire oraison.
La liturgie est maîtresse d'oraison. Et c'est à partir de l'expérience de la liturgie, et dans la mesure où on a du silence et d'intériorité avant, après et pendant, que peu à peu, on s'habitue à prier le plus personnellement possible au cours de la liturgie. Même si après, mon expérience de moine là aussi me l'a montré, on a, la liturgie nous a tellement marqué et nourri qu'on a besoin de temps ensuite pour prier. Après des matines qui durent trois quarts d'heure, une heure, on a encore besoin de prier après. Expliquer pourquoi. Parce qu'on a besoin d'intérioriser personnellement ce qu'on a vécu. Alors de même pour la messe. Mais ceci demande une éducation, en effet. La grâce de l'Esprit Saint qu'on reçoit nous invite à cette intériorité.
Vous dites, quand un ami très cher vient nous voir, nous ne le laissons pas seul, mais au contraire, nous cherchons à rester avec lui en tête à tête.
Qu'on appelle l'action de grâce, c'est le temps qu'on prend, justement. Et on peut
justement, la prière,
mais après la messe,
la prière,
si on peut.
Après la communion, voilà, venons-y. Vous finissez donc, et on finira cette émission donc par ça. Vous finissez donc en parlant donc de cette, comment dire, cette prière supplémentaire quelque part qui dit l'amour que l'on a de Dieu et de la personne que l'on a rencontrée. Vous invitez. Donc, vous parlez de la prière après la communion, la prière qui est faite pendant la liturgie,
et vous invitez
derrière éventuellement à une action de grâce qui suit.
Mais la prière après la communion, ce qu'on appelle la post-communion, c'est il y a trois grandes prières dans la messe, celle d'ouverture, celle qu'on appelle la collecte, celle sur les offrandes et celle sur après la communion. Et la prière après la communion, elles sont souvent très très belles. Il y a une qui me revient en mémoire au moment où nous parlons là, et c'est que donne-nous Seigneur, nous qui venons de participer à ce mystère eucharistique, de devenir ce que nous sommes, le corps du Christ. On a reçu le corps du Christ, et en recevant le corps du Christ, on devient le corps mystique du Christ dans l'unité, la communion que cela suppose. Et vous savez que toute la doctrine en profondeur du Concile Vatican II, c'est l'ecclésiologie, c'est-à-dire une conception de l'Église marquée par la communion. La communion, c'est communier, être ensemble, être unis dans la communion à partir de la communion eucharistique, entre nous, unis entre nous. C'est le mystère de la communion dans l'Église.
Pour finir, Monseigneur, quid de la prière ? Il me semble que vous en parlez à un moment. Il n'y a pas un sous-chapitre qui est dédié à ça. Mais une fois que la liturgie est finie, le chant de communion est fini, on en voit certains qui restent encore et qui demeurent.
C'est merveilleux.
Est-ce une invitation ? Vous êtes vous-même moine parfois après des longues...
Toujours dans le monastère, certainement nous prenons un temps après la fin de la messe pour rester en silence, au moins de ce qu'on nous propose, c'est de rester un quart d'heure en silence après la communion eucharistique. Évidemment, comme pasteur dans un diocèse maintenant, à la fin de la messe, je reste pour saluer les gens, et donc c'est vivre une communion entre fidèles, d'où l'importance d'avoir mis un temps de silence auparavant, et puis quand je le puis ensuite, de rester aussi en paix. Ma mission, c'est d'accueillir les fidèles et de montrer la communion avec eux. Et c'est heureux aussi. Tout ça, c'est complémentaire, une question de dosage, une question d'équilibre, et qu'on n'atteint jamais parfaitement, mais auquel on tend toujours.
Merci beaucoup, Monseigneur, d'être venu en ce début de carême donc pour cette série d'émissions. Il nous en reste encore une ou deux. On va décider ensemble du programme. Je rappelle le titre de ce livre que l'on parcourt, La messe au fil de Sérite, paru aux éditions CLD. Un grand merci à vous.
Merci, Emmanuel, et Dieu soit avec vous, comme votre nom l'implique.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.